Bonjour à tous, au micro Sylvie Ligi qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques de la Paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Alors parlons aujourd'hui de l'Amérique, les Américains, des Américains, mais aussi de leur président, Donald Trump, qui vient d'adresser un avertissement au Hamas, le dernier, dit-il, après celui qu'il a énoncé en mars dernier. Est-il envisageable qu'il passe des paroles aux actes? On sait aussi que les Américains sont les grands amis d'Israël. On se rappelle pourtant les nombreuses manifestations de soutien apportées aux Palestiniens et aux Gazaouis en particulier dans les universités, notamment américaines. Sont-ils toujours les amis d'Israël? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un Américain, ou disons un Franco-Américain, Sébastien Lévy, qui vit à New York, spécialiste des USA. Il est aussi chroniqueur sur Radio J et également correspondant aux États-Unis pour journal.info, c'est-à-dire un média du net, où il a publié il y a quelques jours un article sur, justement, le niveau de sympathie des Américains pour Israël. Bonjour Sébastien Lévy.
Bonjour Sylvie.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, parlons de la sympathie des Américains à l'égard d'Israël. Vous dites dans votre article que cette sympathie n'est plus ce qu'elle était. Expliquez-nous.
Bah alors, en fait, il y a un dernier qui vient de sortir dans l'Institut Quinnipiac, qui est un des instituts de sondage les plus respectés aux États-Unis, et qui montre un chiffre, que le chiffre sans doute le plus marquant, c'est ce 50% des Américains estime que Israël commet un génocide aujourd'hui. Ce chiffre monte à 75% chez les démocrates. Et puis il y a un autre chiffre qui me paraît très important. 60% des Américains, dont 40% des républicains, c'est peut-être un autre chiffre qui est absolument majeur, estiment que les États-Unis doivent arrêter d'envoyer des armes à Israël. Donc, ça traduit en tous les cas, non pas, je pense, ces chiffres ne traduisent pas nécessairement que c'est la fin de l'amitié israélo-américaine, pas du tout. En revanche, ça traduit une vraie évolution de l'opinion publique américaine qui dépasse de très très loin, et j'ai écouté votre introduction qui était très juste, mais ça dépasse de très très loin ce qui se passe sur les campus américains. Vous avez aujourd'hui une révolution de l'opinion publique américaine et qui est en décalage avec, pour le coup, le soutien du gouvernement américain, qui lui, pour le coup, est vraiment extrêmement fort. On peut dire que les positions des deux gouvernements sont assez alignées. Donc, il y a un vrai décalage qui est en train d'exister entre l'opinion publique américaine et le gouvernement américain. Donc, on passe d'une amitié inconditionnelle, sans doute, à une amitié beaucoup plus vigilante, voire critique envers Israël.
Alors, parce que les démocrates, si j'ai bien compris, vont user volontiers du slogan de la rivière à la mer. Mais les républicains, est-ce que leur soutien pourrait faiblir?
Alors, juste un petit point. Je pense que, alors, par rapport à la rivière à la mer, je pense que ça, pour le coup, est vraiment l'aile gauche du Parti démocrate. Donc, je ne pense pas que ce soit encore la position, je dirais, de l'ensemble du Parti démocrate. Chez les républicains, en fait, vous avez effectivement un certain affaiblissement. En tous les cas, c'est ce que traduisent ces chiffres. Ce qui est encore plus intéressant, peut-être, qui se passe chez les républicains, c'est le décalage, en fait, entre les âges. Vous avez aujourd'hui 50% des jeunes républicains de moins de 50 ans qui ont aujourd'hui une mauvaise image d'Israël en forte dégradation depuis 3 ans, c'est-à-dire que c'était 30% il y a 2 ans. Donc là, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est au sein du Parti républicain en général. Et puis au sein du Parti républicain, vous avez deux ailes, on va dire. Vous avez l'aile traditionnelle, on va dire, l'exportation de la liberté, l'alliance des démocraties. Et puis, vous avez une aile beaucoup plus isolationniste qui, d'une certaine façon, a soutenu Trump. C'est une aile qui n'est pas nécessairement anti-israélienne. En revanche, qui dit « ça n'est pas le rôle des États-Unis d'intervenir ailleurs et ça concerne également Israël ». Et vous avez aujourd'hui donc une hausse de cette aile isolationniste. Donc, si vous mettez bout à bout, je dirais, cette partie isolationniste qui est en train de passer au sein du Parti républicain et également des jeunes républicains qui, pour le coup, eux, sont exposés à des images qui les heurtent par rapport à ce qui se passe à Gaza, vous avez clairement un parti républicain qui évolue petit à petit, alors pas aussi nettement que le parti démocrate, mais il est faux, en tout cas aujourd'hui, de dire que ça serait le parti démocrate qui serait très critique envers Israël et le parti républicain totalement aligné sur les positions d'Israël. La réalité est un petit peu plus compliquée, et ça aura sans doute des conséquences, même sur la façon dont Trump, éventuellement, peut voir son audience, parce qu'il tient évidemment compte de ses soutiens. soutien. Et si ce soutien commence à être un peu plus critique envers Israël, il est possible que Trump en tienne compte, mais ça n'est absolument pas certain.
Voilà, alors justement, le président américain, par rapport à Israël, il a lancé dimanche dernier un dernier avertissement au Hamas, l'exhortant à accepter un accord pour libérer tous les otages que le Hamas détient encore. J'en profite pour rappeler qu'il s'agit de 47 otages, dont 20 peut-être sont encore en vie sur les 251 qui ont été kidnappés le 7 octobre pendant le massacre. Donc, il dit, les Israéliens ont accepté mes conditions, il est temps pour le Hamas de les accepter également. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces ?
Alors, bon, Trump est assez coutumier du fait. On se souvient qu'il avait dit, alors on perd le fil un petit peu, mais il avait dit il y a quelque temps que si jamais le Hamas ne libère pas les otages, all hell will break loose, c'est-à-dire que les portes de l'enfer s'ouvriront sur Gaza. Il utilise aussi pas mal de ce type de menaces envers d'autres pays. Il avait dit qu'il sanctionnerait la Russie, il ne l'a pas fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu plus difficile, de prendre véritablement au pied de la lettre ces menaces. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'accord en fait qui a été proposé au Hamas et à Israël est plutôt un accord qui va dans le sens d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est un accord qui donne la possibilité à Israël de poursuivre la guerre. Or, on le sait aujourd'hui, ça se joue vraiment sur quelles sont les garanties données éventuellement par les États-Unis au Hamas pour que la guerre ne reprenne pas. Et c'est sans doute la condition principale aujourd'hui qui est posée pour le Hamas. Ça ne veut pas dire que le Hamas respectera sa parole, loin de là. Mais en tous les cas, pour le coup, leur position est très claire. L'arrêt de la guerre contre la libération des otages. Or, cet accord, ça prévoit la libération des otages qui ouvre ensuite une discussion sur l'arrêt de la guerre. Donc, vous pouvez bien comprendre qu'en termes de séquençage, c'est quelque chose sans doute qui n'est pas acceptable pour le Hamas parce que, ils perdraient avec ça, je dirais, leur seule carte aujourd'hui dans les négociations pour ensuite négocier un arrêt de la guerre qui pourrait être accepté ou pas par Israël. Et donc, il est peu probable que cet accord soit accepté par le Hamas. Et puis, je pense que c'est important quand même de tenir compte de ce qui vient de se passer dans les dernières minutes avec le raid de Tzahal contre le Hamas au Qatar et notamment le chef des négociateurs du Hamas qui aurait été éliminé. En ce sens, enfin, je pense que a priori, donc cet accord pour cette raison également, à la fois des raisons de fond, mais aussi des raisons là liées à cette opération, il est peu probable que cet accord soit signé, en tout cas voit le jour.
Oula, alors si à ça on ajoute le refus opposé par Trump au visa des 80 Palestiniens qui devaient assister à l'Assemblée générale de l'ONU là. En ce moment, dans quelques jours, dont Mahmoud Abbas, c'est-à-dire le président de l'autorité palestinienne, tout ça n'augure pas de... Enfin bref, voilà, la coalition en Israël applaudit, l'autorité palestinienne demande au président Trump de revenir sur sa décision. Certains disent que c'est une gifle diplomatique pour les Palestiniens et un signal de soutien à Israël. Vous partagez ce point de vue ?
Complètement, et je pense que ça traduit aussi ce dont on parlait au début de l'entretien, c'est-à-dire que l'alignement est aujourd'hui complet entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. Et donc oui, c'est également une gifle diplomatique. C'est une gifle diplomatique qui est non seulement...
Donc vous disiez une gifle diplomatique.
Pour également les pays qui soutiennent la reconnaissance de l'État palestinien, comme la France, parce que c'est clairement de dire, nous ne reconnaissons aucune légitimité, évidemment pas au Hamas, évidemment ce groupe terroriste, mais au-delà de ça, à l'incarnation, je dirais, politique des Palestiniens. Donc en ce sens, oui, c'est un signal très très fort manifesté par l'administration américaine de son mécontentement envers la France, de sa défiance envers les Palestiniens et de son soutien envers le gouvernement israélien. Donc pour le coup, c'est quasiment un 3-in-1 avec cette mesure assez vexatoire. Et en ce sens, c'est un signal extrêmement fort envoyé par le gouvernement américain.
Est-ce qu'il y a des perspectives d'ouverture ? Parce que là, c'est la guerre à Gaza, la guerre sans fin, la guerre... Et le danger pour la mise en danger des otages, la mise en danger des soldats israéliens, etc., etc. Et puis, Oui, est-ce que...
Encore une fois, là, on estime qu'aujourd'hui, il y a une seule personne qui pourrait éventuellement infléchir le sort de la guerre et la poursuite de la guerre à Gaza, c'est Donald Trump. Les derniers signaux envoient plutôt le signal, je dirais, d'un alignement complet du gouvernement américain sur le gouvernement israélien. Beaucoup pensaient, je faisais partie de cela, qu'après l'attaque en fait contre l'Iran, il aurait été possible, je dirais, pour Donald Trump, non pas de faire pression sur Israël, mais de dire voilà, j'ai montré que j'étais à vos côtés. Maintenant, il est temps d'une certaine façon de prendre le lien, d'arrêter cette guerre et de reconfigurer un petit peu la région, en sachant que la menace iranienne neutralisée, le Hamas est donc de facto affaibli, et c'est peut-être le moment de passer à une autre étape. On sait que Trump veut absolument le prix Nobel de la paix.
Alors,
et donc
voilà.
Beaucoup ont pensé fin juin, début juillet, qu'il pourrait y avoir une ouverture diplomatique et que Trump pourrait user de son influence sur Benjamin Netanyahou et de sa légitimité auprès du peuple israélien pour imposer, une sortie diplomatique. Ça n'est pas ce qui se passe. Donc, il semble aujourd'hui, Donald Trump continue de donner carte blanche à Israël. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas véritablement de porte de sortie et en tout cas de chemin aujourd'hui autre que la guerre, au moins à court et moyen terme.
Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu optimiste à nous raconter pour conclure?
Écoutez, il y a une chose qui est sûre avec Trump, c'est qu'on est sûr de rien. Et donc, la réalité du jour peut changer d'ici deux semaines, d'ici un mois et demi. Et puis, si on reprend par rapport au début de notre conversation sur l'évolution, de l'opinion publique américaine par rapport à Israël, il est possible aussi que Trump, constatant une certaine désaffection de sa propre base envers Israël, se dise que si l'image d'Israël se dégrade autant, et d'ailleurs lui-même l'a reconnu, il a dit « Attention, Israël est en train de perdre cette guerre de l'image », on sait que pour Trump c'est important, et donc il est possible qu'à un moment donné, Trump se rende compte au nom même de son soutien à Israël, de se dire « Je perds aujourd'hui politiquement. Israël est en train de perdre en termes d'image et de réputation à l'international. Donc, il est possible que les choses changent. Encore une fois, Trump est connu justement pour son imprévisibilité. Et il est possible que les choses changent d'ici un mois, d'ici deux mois. Il y a des élections demi-mandat dans un an. Et il est possible que ça ait une influence pour Trump, avec aussi les chiffres qu'il a vus notamment au sein du Parti républicain, pour enjoindre Israël à acter la fin de la guerre. Et puis il est possible, soyons optimistes, il est possible que cette dernière opération, peut-être contre Hamas, si Israël peut vraiment présenter la victoire contre le Hamas comme définitive en ayant aussi éliminé d'autres dirigeants aujourd'hui, peut-être qu'Israël sera plus, incité à finir avec cette guerre, puisque le liberté du Hamas aura été éliminé. Voilà, c'est peut-être une porte de sortie qu'on peut imaginer et espérer notamment pour les otages.
Espérer pour les otages, comme vous dites. Mais écoutez, on va terminer sur ces mots. Je vous remercie beaucoup, Sébastien Lévy, pour cet éclairage.
Merci à vous.